Bonjour Marie Garnier.
Bonjour Christophe.
Le papillon à roulettes, vous nous présentez aujourd'hui ce livre pour enfants paru aux éditions Baudelaire. Le papillon à roulettes raconte l'histoire d'une petite fille. Vous allez en parler dans quelques instants et ce livre est bien évidemment inspiré de votre histoire personnelle. Vous êtes la maman d'Anaïs. Anaïs a 24 ans aujourd'hui, elle est IMC, infirme moteur cérébral. Et vous aviez déjà raconté son histoire il y a 2 ans dans un livre et votre histoire aussi, Le nid des papillons aux éditions Baudelaire. Ça c'est la version, on va dire, pour adultes. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est ce livre pour enfants qui parle donc du handicap et de tout ce que vous avez vécu. C'est un projet. D'où vous est venue l'idée ?
L'idée m'est venue après la sortie du Nid des Papillons. J'avais envie de m'adresser aux enfants. J'avais surtout envie d'offrir à l'adulte un support ludique et léger qui lui permette de parler de différences et de handicap, notamment avec les plus jeunes.
C'est vrai qu'il existe beaucoup de livres témoignages, on a l'honneur de recevoir souvent les auteurs dans cette émission, et beaucoup moins pour les enfants.
Je me suis rendu compte que, au travers de mes expériences personnelles, c'est-à-dire mes collègues, mes amis, qui n'étaient pas toujours en mesure d'expliquer la différence à leurs enfants.
Là, cette petite fille, la petite fille de l'histoire, c'est un papillon, mais elle ne peut pas voler.
Tout à fait. C'est vrai que je voulais faire quelque chose de léger qui puisse plaire aux enfants. Donc j'ai trouvé que déjà le symbole du papillon, pour tout ce que ça représentait, pour faire un lien aussi avec le premier livre, faire que ce petit papillon devienne un petit peu le meilleur ami de tous les enfants.
sur la couverture, c'est un peu pas un papillon comme les autres qui vit, évidemment, cette petite fille vit tout ce que vivent les enfants, mais elle a une différence et on s'en aperçoit tout au long de ce livre avec de jolies illustrations. D'ailleurs, sur la couverture, il y a un fauteuil roulant. C'est pas évident de représenter le handicap, de parler, de représenter pour les enfants le handicap.
Non, c'est pas évident. Parce que déjà, pour l'adulte, c'est pas évident. C'est un sujet qui fait peur, qui renvoie une image qui est souvent symbole de douleur, de... Ça effraie. Donc, c'est vrai que les enfants, quand ils sont tout petits, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas le recul que nous, adultes, avons. Ils sont pas pollués par tout ce qu'on a vécu et par cette peur du handicap. Donc le but, c'était de les prendre les plus jeunes possible et de façon à démystifier un petit peu ce fauteuil qui fait peur.
Oui, vous êtes convaincu qu'on peut leur parler, bien sûr, de ces histoires. Malgré tout, il fallait proposer une histoire qui soit non pas triste, mais qui soit motrice et qui raconte des choses.
Effectivement, il fallait
être léger sur un sujet lourd.
Oui, effectivement, il fallait que je trouve une histoire où le petit papillon à roulettes puisse arriver à faire quelque chose, et notamment dans l'histoire à voler, de façon à ce que l'histoire se termine comme un conte de fées, on va dire.
Les illustrations sont de Jeanne Chapelle. C'est très important, ce travail pour les enfants, ce travail d'illustratrice. Comment vous avez rencontré Jeanne Chapelle et comment vous avez travaillé ensemble?
Alors, Jeanne Chapelle, je l'ai rencontrée par le biais d'une amie qui s'appelle Michel Chenot, j'avais mis un message comme ça sur ma page Facebook, en disant je cherche une illustratrice bénévole, puisque moi je reverse tous les bénéfices de ces deux livres à l'association qui accueille Anaïs pour son avenir d'adulte. Et elle m'a renvoyé tout de suite un message en me disant je crois que j'ai la personne qu'il te faut. En l'occurrence, Jeanne, qui à l'époque avait 17 ans, donc une jeune fille qui a un talent fou, qui avait lu Le Nid des Papillons, et qui est rentrée dans cette histoire, qui m'a sorti des dessins exactement tels que je les voulais.
Elle avait jamais ou déjà travaillé sur le handicap, sur ces histoires-là
Sur le handicap, non. Je pense pas. Par contre, elle a un coup de crayon qui est exceptionnel.
C'est un autre travail alors que d'écrire un livre, un texte et puis un livre témoignage plus proche de votre vie, de votre parcours. Là, c'est plus un peu plus une métaphore. En même temps, ça raconte des vraies difficultés. Mais comment on fait pour passer de l'un à l'autre?
On réfléchit beaucoup parce qu'on veut surtout faire passer ce message, mais s'adresser aux enfants, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment rester dans une légèreté et dans quelque chose qui va les capter et qui va leur donner envie de lire cette histoire et d'aimer cette histoire.
Est-ce que vous avez eu l'occasion alors de voir les réactions du jeune public, de tester un petit peu comment ce livre a été accueilli?
Le livre est sorti au mois de décembre, effectivement. Je commence à avoir des réactions très très positives. Des réactions d'amis qui me disent ça fait 2 mois que je lis Le Papillon à roulettes en permanence tous les soirs. Des enfants accrochent vraiment.
Pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient découvrir ce livre, peut-être des parents aussi, c'est un livre qui s'adresse à tous les enfants, à partir de quel âge?
Moi je dirais à partir de 4 ans, on va dire. Après on peut lire l'histoire du moment que l'adulte, il faut que l'adulte quand même soit là déjà pour expliquer un petit peu le déroulement de l'histoire, parce que je pense que ça fait naître plein de questions chez l'enfant. Et c'est
faut,
là que l'adulte
accompagner aussi, hein,
tout à fait,
la
c'est là que l'adulte va avoir son rôle. Il va expliquer tout ce que l'enfant ne comprend pas. Et c'est vrai qu'il y a des tas de questions qui naissent. Pourquoi le papillon ne vole pas? Est-ce qu'il va voler un jour? Il y a beaucoup, beaucoup de questions.
Ça va
c'était
lui permettre
but.
Aussi de voir peut-être s'il a un petit copain un jour ou une petite copine qui est en situation de handicap. Il va comprendre.
Oui, c'est là qu'on fait le lien. C'est-à-dire que moi, quand je le présente, ça m'arrive de le compter quand je participe à des salons, à des enfants. Et à la fin de l'histoire, je vais essayer de faire le lien entre petit papillon en roulette et enfant. Et c'est là que j'ai demandé aux enfants, est-ce que vous avez dans votre école, est-ce que vous avez autour de vous, peut-être une petite fille ou un petit garçon qui est dans un fauteuil à roulettes. Bon, après, on dévie sur le fauteuil roulant.
Là, ça permet de comprendre que c'est une situation qu'on peut retrouver. Le mot handicap, lui, n'est pas, je crois, prononcé. Peut-être je n'ai pas tout vu, mais est-ce que c'est volontaire aussi? Est-ce qu'au bout d'un moment, on peut expliquer ensuite que il s'agit de ce qu'on appelle le handicap?
C'est volontaire. C'est volontaire parce que le mot handicap fait peur. Je le disais tout à l'heure, c'est pour un enfant, je pense que ça représente pas grand-chose. Un enfant, il a pas de, comme je disais tout à l'heure, il est pas pollué par tout notre vécu à nous. Donc lui, il a besoin de réponses très simples. Il va se contenter de ces réponses simples.
Donc les réponses qui se traduisent dans sa vie à lui, les choses concrètes, le fait de pas pouvoir marcher.
Exactement.
Ça, c'est plus clair pour lui, vous pensez que
pas pouvoir marcher, pas pouvoir voler, c'est pour le papillon, c'est vrai que pour un enfant, c'est pas pouvoir marcher. On lui dit, c'est vrai que j'ai voulu dire, il est né comme ça, parce que je voulais pas rentrer non plus dans un dialogue trop compliqué que l'enfant aurait pas compris.
On va avoir l'occasion tout au long de cette émission de revenir sur votre histoire et sur l'histoire d'Anaïs. Je le disais, comment la famille et comment elle a réagi à ces deux démarches que vous avez eues. Vous, d'abord raconter l'histoire dans le livre en 2010, La nuit des papillons, et puis surtout l'adapter pour les enfants.
Alors la famille, ça a été le nid des papillons, pour vous expliquer un petit peu, c'est un livre témoignage, vous l'avez dit. C'est surtout une mise à nu, c'est-à-dire ça, c'est plein de choses que j'ai pas dites pendant des années. Donc la famille, elle s'est beaucoup culpabilisée. Elle s'est culpabilisée parce que ce dialogue n'était pas instauré, parce qu'on parlait pas de différence, parce qu'on parlait pas de handicap, parce qu'on faisait pas de différence.
Elle a compris qu'il y avait des communications qui n'étaient pas passées, qu'il y avait des phrases qui n'avaient pas été dites.
Oui, puis que j'avais besoin moi aussi d'en parler.
Oui. Ça, c'était avant tout pour ça, c'était un besoin d'écrire. On dit souvent que ça fait du bien d'écrire,
c'est un exutoire,
raconter
oui.
son histoire, et ça se vérifie.
Ah oui.
Et pour le livre pour enfants, là, j'imagine que ça permet encore plus de prendre du recul sur sa propre histoire, finalement, et de l'écrire de façon apaisée quand on attend encore 2 ans et quand on raconte une histoire autre, en quelque sorte, et pour les enfants en plus.
Ça touche un autre public, et c'est vrai que je vous l'ai dit déjà, ce public, je voulais vraiment le toucher. Je pense que il faut parler du handicap le plus tôt possible.
Et donner de l'espoir, il y a de l'espoir en général.
Oui, il faut avoir de l'espoir, bien sûr qu'il y a de l'espoir.
J'ai
toujours eu de l'espoir et je continue à avoir beaucoup d'espoir.
À quoi ressemble la vie d'Anaïs aujourd'hui? Aujourd'hui, Anaïs a 24 ans, hein, c'est une adulte.
Oui, c'est une grande fille qui est petite en même temps, parce que les enfants différents sont des enfants que c'est des petits morceaux quand même, je veux dire. C'est une petite nénette qui est pleine de vie, qui chantonne tout le temps, qui est très gaie, qui rit tout le temps, qui a sa façon de communiquer puisqu'elle parle pas, donc ça se passe beaucoup par le regard.
Vous avez l'impression que vous arrivez à la considérer comme une adulte. C'est son âge qui dit que c'est une adulte. Il lui reste certainement de grandes difficultés, mais comment vous percevez ça?
Ça a été très difficile. Je pense que le passage à l'âge adulte s'est fait quand elle a été admise dans cette maison d'accueil spécialisée, où là j'ai pris conscience qu'elle avait vraiment grandi. Parce que je le dis dans le Nid des Papillons, Anaïs, c'est mon bébé, ça reste un bébé, et ça restera un bébé très longtemps. Ben oui, parce qu'elle demande des soins aussi qui sont peut-être inadaptés par rapport à son âge.
La maison d'accueil spécialisée, ça a été un grand changement.
Ben oui, ça a été... je suis passée de bébé à adulte d'un coup, il n'y a pas eu l'adolescence, il n'y a pas eu... C'est vraiment un passage qui est difficile, mais qui est moins difficile que ce que j'avais pensé.
Quand même.
On m'avait beaucoup préparé à ce passage pour adulte.
C'est vrai, on vous a ouais. expliqué.
On m'avait beaucoup expliqué, ça m'avait fait peur. Et je sais que ça fait peur à plein de parents parce que je rencontre beaucoup de parents. Et contrairement à ce que j'avais pu imaginer, ça a été au contraire quelque chose de positif.
Ça veut dire qu'il y a eu des changements dans sa vie et dans votre vie depuis oui. cette maison d'accueil spécialisée.
Ben, il y a eu le livre, il y a eu les livres. Il y a eu les rencontres, beaucoup de rencontres avec des familles, des rencontres avec des enfants qui ont la même pathologie qu'Anaïs, donc notamment le syndrome de Rett, donc avec la FSR, l'Association française du syndrome de Rett, où j'ai rencontré beaucoup de jeunes parents. Et comment vous expliquer ? Avec 24 ans de recul, de connaissance, on va dire, du handicap, quand je suis confrontée à des jeunes parents, j'ai envie de leur faire passer ce message d'espoir. C'est ça qui est important. C'est-à-dire leur dire que, effectivement, ils sont peut-être actuellement dans un tunnel tout noir, mais qu'après ce tunnel tout noir, on arrive à trouver une certaine sérénité et surtout, on arrive à vivre.
On va voir tout ce parcours que vous avez vécu et puis tous les changements. Et effectivement, il y a un moment où on voit un petit peu les effets de tout ce travail, de toutes ces recherches. C'est vrai qu'à un moment, ça devient plus facile. Vous êtes aujourd'hui confiante par rapport à l'avenir?
Oui, j'ai espoir peut-être... Effectivement, pour Anaïs, les choses sont peut-être plus difficiles parce qu'elle est plus âgée, parce qu'on peut pas... Mais j'ai espoir pour tous ces jeunes enfants en me disant on va finir par découvrir quelque chose, on va finir par déjà faire accepter nos enfants, ça sera déjà énorme, changer le regard.
C'est très important. Une idée reçue. Chaque jour dans l'émission, vous savez, on passe une idée reçue en revue et cette idée reçue concerne les enfants. À l'école, les enfants sont cruels entre eux. Est-ce que ça peut arriver par rapport au handicap notamment? Est-ce que ça se vérifie? Est-ce qu'on peut les faire changer?
Oui, ça peut arriver. Bien sûr que ça peut arriver. Mais ça arrive parce que les enfants ne connaissent pas, parce qu'on ne leur a pas expliqué ce que c'était que le handicap. Comme toute différence. On parle de handicap, on peut parler de couleur, on peut parler de poids. On peut parler de des enfants qui ont des enfants roux, par exemple, qui vont être victimes de discrimination. C'est toutes les discriminations. Et à partir du moment, je pense, où on explique aux enfants, comme à l'adulte, c'est mon but. Quand je vais sur les salons, j'essaie d'expliquer aussi bien aux enfants qu'aux adultes la différence. Pour que cette différence, en soit plus une.
Jusqu'à 13h, nous recevons Marie Garny aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous. Vous êtes la maman d'Anaïs qui est IMC. Dans quelques minutes, on reviendra sur votre histoire. En fin d'émission, vous répondrez aux questions Internet et Facebook de nos auditeurs. À tout de suite. Jusqu'à 13h, dans Vivre FM, c'est vous, nous recevons Marie Garnier. C'est une maman que nous recevons. Vous êtes la maman d'Anaïs qui a 24 ans et qui est IMC, infirme moteur cérébral. Et vous avez raconté votre histoire, on va dire, de deux façons. Un livre pour les adultes, un livre témoignage qui s'appelle Le Nid des Papillons. Et puis une version pour enfants, Le Papillon à roulettes, avec les illustrations de Jeanne Chapelle. Et les deux livres sont aux éditions Baudelaire. Une façon de raconter votre histoire. On va revenir sur ces événements, notamment la longue période de doute autour du diagnostic. C'est quelque chose que beaucoup de familles vivent, ça. Est-ce que ça a été facile de raconter tout ça, tout ce parcours? C'est vrai que vous vous livrez beaucoup dans le livre.
Non, ça n'a pas été du tout facile. Mais c'était nécessaire. Quand j'ai été obligée de remonter 22 ans en arrière, revivre des émotions que j'avais un petit peu mis de côté parce que c'était des émotions très douloureuses, de la douleur. D'ailleurs, je me suis bloqué le dos quand j'ai écrit. mais ça, c'est normal. Mais par contre, c'est vrai que je regrette pas du tout de l'avoir fait. C'était important de le faire.
Vous avez montré le livre à des personnes avant de franchir le pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de transparence et de franchise hein, dans vos écrits.
C'était pas un livre qui était du tout prévu à être édité. Donc j'avais écrit ça. C'était plus un besoin parce que j'étais un petit peu désemparée quant à ma recherche d'établissement pour adultes, pour Anaïs. Donc il fallait que je compense. Et la compensation s'est faite au travers de l'écriture. Donc j'ai fait lire le manuscrit à l'assistante sociale qui s'occupait d'Anaïs dans son IME, qui m'a rappelé 2 heures plus tard en me disant « il faut absolument que ce livre soit lu par plein de monde ». Bon, je lui dis « non, Hélène, c'est pas possible, vous pouvez pas me demander ça, c'est une mise à nu, j'arriverai jamais à faire cette mise à nu, c'est trop personnel ». Donc j'ai ramené mon manuscrit à la maison et puis il est resté quelques mois dans le tiroir. Et mes recherches pour un établissement pour adultes n'évoluaient pas. J'étais toujours sur des listes d'attente interminables. Donc j'ai ressorti le manuscrit du tiroir et puis j'ai dit « bon allez, je vais le faire, de toute façon j'ai rien à perdre ».
Ça vous a, entre guillemets, ouvert des portes, en tout cas des horizons, vous avez pu parler à des personnes qui ont réagi à ce livre.
J'ai commencé à parler de handicap.
Oui.
C'est là. C'est que pendant 22 ans, je crois que j'en ai très très peu parlé.
C'est vrai qu'on est tenté de à la fois de se battre, ça c'est certain, parce que vous n'avez pas le choix en tant que maman, mais aussi de mettre de côté le plus désagréable. Hein. Vous revenez sur toutes ces combats dans le livre « Le nid des papillons », dans votre témoignage, la naissance de son enfant, on a envie que tout se passe bien. Vous racontez, vous, que a priori ça se passait bien et que vous vérifiez même que votre petite Anaïs était comme un petit enfant normal.
Ben oui, on compte les doigts, on compte les orteils, on regarde si tout va bien. Tout va bien, tout semble aller bien, et puis on rentre à la maison, et puis ça évolue, on va dire, au dire du médecin qui la suivait normalement. Mais il y a quelque chose qui fait qu'une maman ressent des choses, et à un moment, la maman, elle ressent des choses qui sont pas normales, et puis tout démarre, et... Et c'est les bilans et c'est les hôpitaux. Et
vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et ouais. On a été tenté, les médecins, de ne pas vous croire. C'est
bah
arrivé.
Oui. Il a fallu quand même, je crois, les premiers examens ont eu lieu. Anaïs est née au mois de novembre et les premiers examens ont eu lieu en été, donc de l'année suivante. Donc ça a été 8 mois à peu près.
Quels étaient les premiers signes? En quoi on voyait que vous voyiez vous qu'il y avait quelque chose?
Alors Anaïs ne regardait pas en face. Elle avait un regard fuyant. Donc c'est ce qui m'a un peu alertée. Donc j'ai cru au début qu'elle avait un problème visuel. Donc j'ai commencé à alerter mon médecin, qui lui trouvait ça développement normal, pas de problème.
Vous parlez aussi des biberons, je crois, dans le livre, et du fait qu'il y a des personnes qui aident, c'est important aussi d'ailleurs, les éleveuses d'enfants, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui aident les mamans, et qui les guident dans les bons gestes, parce que c'est vrai qu'au début c'est pas évident, mais du coup, ces personnes vous rassuraient un petit peu à tort, enfin.
Bah oui, parce que bon, elles me donnaient un petit peu, c'est, en même temps, avec du recul, je me dis c'est normal. On a chacun vécu avec son enfant, donc on essaye de partager une expérience. Mais là, en l'occurrence, cette expérience était complètement décalée par rapport à ce que je vivais.
Elle vous parlait d'une réalité idéale qui n'était pas la vôtre.
Complètement.
Oui. Ça a été quand même long, les examens, oui. les visites, avant d'avoir un diagnostic, hein, avant d'avoir un nom sur ce qui n'allait pas chez Anaïs.
Ça a été long dans le sens où j'ai toujours pas le nom. J'ai toujours pas le nom. Anaïs a été diagnostiquée visuellement selon les... C'est un diagnostic clinique qui a été fait visuellement
signes,
en fonction des signes. Elle a été diagnostiquée RET, syndrome de RET. Donc c'est une maladie rare, une maladie génétique orpheline. Et ce diagnostic n'a jamais pu être confirmé. Mais je n'ai jamais cherché en même temps à le faire confirmer. Parce qu'il y a 24 ans, la génétique en était pas au niveau où elle en est maintenant. C'est-à-dire qu'on faisait des choses beaucoup plus succinctes.
Et c'est pas évident d'apprendre, d'entendre parler d'une maladie génétique, d'apprendre un diagnostic. C'est quelque chose que vous avez ressenti, et je crois aussi le papa d'Anaïs, comme quelque chose de très violent.
Oui, c'est très très violent parce que c'est un monde qu'on ignore. On en revient toujours à l'ignorance. On ne sait pas ce que c'est. Le handicap, déjà, on ne sait pas ce que c'est parce que tant que ça ne nous touche pas, on ne le regarde pas. Donc forcément, c'est comme toutes les annonces comme ça violentes, c'est un tsunami.
Et puis ça c'est pas les, et puis les examens qui suivent parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Hein. Ça n'est pas fait pour rassurer et pour apaiser.
Après c'est tous les examens, donc c'est vrai qu'on n'a plus le temps non plus de chercher autre chose. Donc on en reste au quotidien et on en reste à l'urgence. Et donc là j'ai recommencé à faire des recherches génétiques parce que la génétique a énormément évolué en 24 ans. Et maintenant, on a découvert des nouvelles façons de chercher grâce au Téléthon.
Oui.
Notamment un examen qui s'appelle le CGH-Array, qui permet de chercher sur tous les chromosomes. Et on a donc recommencé une recherche. C'est un pari que j'ai fait avec un papa que j'ai rencontré, qui m'a dit, si tu le fais, je le fais. Il a un enfant qui a à peu près le même âge qu'Anaïs.
Vous y êtes allés à deux.
Et on y est allés à deux. Et donc, on a recommencé la recherche, donc j'ai rendez-vous à nouveau au mois de juin.
C'est vraiment important hein, pour des parents, pour ces enfants aussi qui deviennent adultes, d'avoir exactement l'étiquette de leur maladie.
Ça l'a jamais été jusqu'à la naissance de ce livre, ça l'a jamais été pour moi. Maintenant, ça l'est parce que j'ai découvert beaucoup de choses autour du handicap depuis que je regarde le handicap aussi d'une autre façon, pas que dans la douleur. J'ai découvert notamment qu'il existait des protocoles de soins auxquels je ne peux pas participer parce qu'Anaïs n'a pas d'étiquette.
C'est pour des recherches, hein, les protocoles de soins, et on a envie de faire avancer. Et parfois, ce sont des protocoles difficiles avec des conditions.
Et puis, on a besoin de se battre contre quelque chose.
Oui.
De nommer l'ennemi.
Vous racontez aussi, et ça c'est important, l'importance dans le livre de faire des projets. C'est vrai qu'il y a eu ces premières pistes de diagnostic, il y a eu beaucoup d'examens, de soins quand Anaïs avait, on va dire, avait 3 ans. Et puis dès maintenant, il fallait faire des projets, envisager l'école. Enfin, il faut continuer quand même, en fait.
Faut avancer. Et il faut se faire violence parce que c'est vrai qu'on a l'impression, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être dans un tunnel tout noir. On n'a plus de passé, on n'a plus d'avenir. On est à l'instant présent et on veut surtout pas regarder l'avenir. Mais arrivé à un moment, il faut les faire ces projets parce qu'il y a les recherches d'établissement, c'est la vie qui pousse.
Il faut même anticiper souvent, c'est vrai que c'est difficile. Oui. Vous parlez d'une expérience avec la nounou, ça c'est intéressant parce qu'on vraiment sans cesse tout vous rappelle la différence d'Anaïs et puis les difficultés. Hein. Et cette nounou dont vous parlez ne s'est pas senti le courage de s'occuper d'Anaïs.
Quand j'ai commencé à passer les premiers examens avec Anaïs, effectivement, elle m'a dit un jour, bon, je lui ai dit que je passais des examens, bien entendu, et elle m'a dit, écoutez, on en a parlé avec mon mari, on va plus pouvoir garder Anaïs parce qu'elle a quelque chose de grave.
Oui. Et puis c'est tout, parce qu'après, forcément, vous retrouvez toutes démunies. Hein.
Et voilà. Après, il faut rechercher un système de garde. Le problème, voilà, ça fait aussi partie des problèmes c'est que on a des enfants petits, pour lesquels il n'y a pas de structure adaptée. C'est-à-dire qu'on essaie de les scolariser. Bon, à l'époque, ça se faisait pas trop. Hein. Quand Anaïs avait 24 ans, il y avait très peu de scolarisation possible. C'était pas encore... Mais maintenant, les jeunes parents essaient de les scolariser parce qu'ils savent pas quoi faire.
Oui. Et puis, de toute façon, rester à la maison, c'est un peu ça aussi la question. Rester à la maison toute la journée avec son enfant, sans l'aider, sans lui garantir la scolarisation, c'est très difficile à vivre.
Être
sans solution.
C'est déjà regarder le handicap alors qu'on veut pas le voir.
Vous parlez tout ce parcours dans les établissements spécialisés, hein, vos lecteurs ont l'occasion de le découvrir dans le livre, Le Nid des Papillons, aux éditions Baudelaire, ce parcours dans l'IME, l'Institut Médico-Éducatif, notamment, des solutions, alors que d'autres parents, eux, ne pensent qu'à la maternelle et l'entrée au CP ensuite, là, il faut se battre pour être sûr que c'est la bonne structure, trouver le bon rythme aussi, c'est pas évident.
Faut déjà faire le pas d'aller visiter des structures. Et quand on a un enfant qui a 4 ans, enfin 4 ans et demi, 5 ans, à l'époque, Anaïs savait, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on voit vraiment la réalité du handicap avec des enfants majeurs.
Oui, les autres enfants, c'est ça qui vous a choqué.
Et c'est violent. C'est très violent.
Beaucoup de handicaps différents, des enfants plus dépendants aussi auxquels vous êtes confrontés, c'est ça qui est pas facile.
Puis nous, on a dans les bras un bébé. un bébé, certes, qui a 4 ans ou 5 ans, mais c'est un bébé quand même. Donc c'est compliqué. Ah oui,
j'ai l'impression que déjà, c'est un abandon déjà à 4 ans.
Oui, puis c'est une vision qui est difficile à soutenir. Mmh. Parce que c'est une projection sur un avenir qu'on veut surtout pas voir.
Oui, et on est obligé de regarder. Il y a quelque chose qui est intéressant, vous parlez de la réaction qui me semble intéressante du directeur de l'établissement, parce qu'il vous dit, il insiste sur le fait que oui, c'est pas drôle, oui, il y a du handicap tout autour, mais c'est de votre devoir, en quelque sorte, de lui donner toutes les chances.
Oui.
De l'intégrer à cette structure.
Il faut arriver à se persuader, dans tous les gestes et dans toutes les décisions qu'on prend pendant la vie de nos enfants, que c'est les bonnes décisions et qu'il faut prendre ces décisions pour son bien. Mmh. Donc c'est un travail personnel qui n'est pas facile.
Notre invité, c'est Marie Garnier dans Vivre FM, c'est vous jusqu'à 13h pour nous parler de son quotidien, son histoire avec sa fille Anaïs qui a 24 ans et qui est IMC. Dans la dernière partie de cette émission, la séquence Un autre regard, on découvrira une maman qui collectionne des jouets qui représentent le handicap. Vous voyez qu'il y a de nombreuses façons de sensibiliser à la différence. Et puis en fin d'émission, Marie Garnier répondra à toutes vos questions. VivreFM.com, la page Facebook de Vivre FM, les deux moyens de les lui poser. À tout de suite. Jusqu'à 13h dans Vivre FM, c'est vous, nous recevons Marie Garnier. Marie Garnier est la maman d'Anaïs. Anaïs a 24 ans, elle est infirme moteur cérébral. Vous racontez votre histoire dans deux livres, un livre à destination de tous et des adultes et puis un livre illustré pour les enfants, Le papillon à roulettes, aux éditions Baudelaire. Un très joli petit livre pour sensibiliser dès le plus jeune âge. Il y a plusieurs façons de sensibiliser à la différence, grâce au livre et aussi grâce aux jouets. Voici le témoignage d'Adrienne Rickert. Elle nous parle de sa très rare collection de jouets pour petits garçons, pour petites filles qui mettent en scène le handicap.
Le tout a commencé par les schtroumpfs, en fait, handicapés. Il y en a deux. Donc moi, j'ai personnellement une sclérose en plaques. Les deux représentent bien ma maladie, parce qu'il y a différents stades dans ma maladie. Donc le premier schtroumpf est en canne, en fait. Le deuxième est en fauteuil roulant, ce qui est évidemment très très rare de trouver ce genre de figurines. Les deux figurines sont évidemment en plastique, plus ou moins mou. La canne et le fauteuil figurent le du bois. Et on pourrait jamais rouler en fauteuil roulant en bois, c'est clair. De mon APF du coin, j'ai vu les schtroumpfs et je les ai pris tout de suite en me disant voilà, ça représente mon handicap, éventuellement ça servira. Après, bon, j'ai été prof très longtemps, donc j'ai travaillé de très longues années aussi en fauteuil roulant. Et c'est une de mes collègues, ma collègue d'anglais, qui a trouvé sur internet la première Barbie en fauteuil. Et là, je me suis dit purée, il faut absolument que je l'ai. Les deux principales. Donc ce sont bon des Barbies normales, elles sont plutôt rouquines que blondes, mais sinon bon c'est le physique tout à fait normal d'une Barbie, hein. Des fauteuils un peu customisés, sympas, et la fonction de Peggy en fait, elle est photographe de son école. Ma préférée, elle est comme Joël Janot, le fameux handicapé qui gagne souvent au JO, donc qui fait du cycle. Ben elle est sur un cycle trois roues, elle a un casque, des gants qui sont peints, elle a une bouteille d'eau, elle a une médaille d'or, non elle est très très chouette. Barbie associée au handicap est totalement tabou en France, évidemment, parce que la France a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays dans ce domaine-là. Donc j'ai cherché très très longtemps sur Internet et j'ai trouvé sur eBay en fait. Et très cher évidemment, bon, elles sont pas chères à l'achat parce que c'est évidemment ce sont des enchères, donc parfois je pouvais les avoir pas chères, mais le problème c'est les droits de douane qui sont très importants quand on est obligé d'importer une Barbie des États-Unis ou de Nouvelle-Zélande comme c'était le cas en fait.
Voilà Adrienne Rickert au micro de Vivre FM qui nous parle de sa rare collection de jouets qui représente le handicap. Une réaction Marie Garnier sur cette attitude, ce projet de réunir des jouets qui représentent la différence pour les enfants.
J'étais très surprise parce que je pensais pas qu'il y avait des jouets qui représentaient la différence.
Les schtroumpfs, les Barbies, avec des fauteuils, avec des cannes, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Et, ouais. Et en même temps, ça peut servir. Hein.
Je trouve ça super. Mais je pense que je vais regarder maintenant.
C'est des jouets à l'import. C'est vrai que peut-être un jour, on aura de tels jouets en France. Mais elle nous le dit, Adrienne, c'est plus difficile, dit-elle, en France qu'ailleurs, de faire passer ces messages pour les enfants. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas. Je me pose un petit peu la question et pourtant... Plus je vais à la rencontre des enfants, notamment là je vais aller dans les écoles, parce que j'ai rendez-vous bientôt dans une école pour aller rencontrer les élèves qui ont déjà découvert le livre, et je me dis qu'ils sont quand même demandeurs. Donc, il faut prendre le temps.
On peut compter sur leur intelligence, sans problème.
Il faut prendre le temps, de leur parler, et je pense que si on prend le temps de leur parler, de leur expliquer, ils vont comprendre.
Un mot pour les parents, quelques conseils peut-être. Vous savez, quand on a un enfant handicapé, on est un aidant familial, c'est le terme qui est consacré. On est le proche qui aide au quotidien et on est parfois un peu perdu. Vous avez voulu, souhaité faire passer un message d'espoir pour ces parents, vous qui êtes un petit peu plus loin dans le parcours, pour ces parents qui, eux, en sont encore au point de départ.
Que dire ? Qu'il faut toujours avoir la foi, qu'il faut toujours y croire, que bah, c'est vrai que les périodes difficiles sont là, quand ils sont petits, et que au fur et à mesure du temps, les choses, je dis pas deviennent plus faciles, mais sont peut-être moins empreintes à des questions surtout médicales.
Oui, ça se met en place, le parcours.
Tout se met en place, et puis c'est pas l'acceptation, parce que je sais pas si un jour on accepte, mais on apprend à vivre autre chose. Et à le vivre bien.
Est-ce qu'il faut aussi pour ses parents, c'est, j'ai l'impression un petit peu un message que vous faites passer, il faut pouvoir souffler pour pouvoir être en retrait et pas être isolé. Vous parlez de, il y a une expérience dont vous parlez, c'est les vacances. Les vacances que vous prenez vous, sans Anaïs et avec beaucoup de culpabilité au début.
Alors ça, je vais revenir sur l'assistante sociale qui s'occupait d'Anaïs, qui est en IME, qui était une personne bon très psychologue. Et qui m'a dit un jour, Madame Garnier, pour tenir, il va falloir ménager votre monture, parce que le chemin va être long. Et ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, il fallait que je me donne du temps pour moi, pour pouvoir être encore mieux avec Anaïs. Mmh. C'est-à-dire lui donner que le meilleur. Et pour lui donner le meilleur, il faut que moi je sois bien.
Ça, c'est un vrai message pour les parents qui nous écoutent. On va passer aux questions, questions Internet et Facebook. Vous allez pouvoir y répondre dans quelques instants. VivreFM.com, la page Facebook de VivreFM. Voici les moyens de poser vos questions à nos invités chaque jour. Question de Thomas qui vient du 20e arrondissement de Paris. Il vous demande quels sont les soins qui sont prodigués à Anaïs. Est-ce que c'est facile de mettre en place tout ça tous les jours?
Anaïs, j'ai de la chance. J'ai de la chance, oui. Elle a très peu de soins. Elle a eu beaucoup d'opérations qui se sont passées, bien, moins bien. Mais au niveau quotidien, elle a très peu de soins.
Oui, finalement, ça prend pas tant de temps dans la journée.
Non, après, bon, effectivement, c'est le quotidien. C'est la faire manger, c'est la changer, c'est les manipulations qui sont, qui sont un peu plus compliquées parce que un peu plus lourdes. Un petit peu moins participative, pardon.
Oui, du fait de son âge et puis du fait
de son poids.
De poids et puis des humeurs aussi, des fois.
Oui, des humeurs. Mais non, elle demande très peu de soins. Donc j'ai de la chance. De ce point de vue-là, je ne vais pas pouvoir tellement
répondre. La question de Nadine. Nadine nous écrit de Palaiseau. Elle vous demande si vous avez pu poursuivre une vie professionnelle malgré le handicap de votre fille.
Oui. Ça aussi, ça fait partie des messages que j'essaye de faire passer aux jeunes familles. C'est... Pour garder un petit peu une soupape, c'est important de continuer à travailler, même si c'est compliqué, parce que c'est compliqué de trouver une garde, ce qu'on disait tout à l'heure, trouver des nourrices, trouver des systèmes de garde, c'est très compliqué. Et puis on a tellement envie de donner le maximum à son enfant qu'on se dit, je vais arrêter de travailler, comme ça je vais pouvoir m'en occuper vraiment beaucoup. On n'est pas des professionnels, on est des parents. On peut pas apporter en tant que parents ce qu'un professionnel peut apporter à un enfant comme Anaïs. Donc, je pense que c'est important de continuer à travailler.
Oui, il faut vraiment compter aussi sur les aides professionnelles.
Ça permet aussi de... Même si, c'est pas facile, ça permet de garder une normalité aussi. Puis de sortir un petit peu des casseroles et des couches et des problèmes et... Voilà.
Question Ludovic. Ludovic nous écrit de Nantes. Il vous demande si vous avez voulu alerter les hommes politiques sur la difficulté pour les jeunes en situation de handicap, notamment lorsqu'ils deviennent adultes, de trouver un lieu de vie, de trouver un travail.
Bien sûr. Bien sûr, j'ai alerté donc le député de ma circonscription, j'ai alerté le président du conseil général, j'ai alerté... à l'époque, c'était un peu plus vieux, c'était ce qui remplace maintenant la MDPH.
Oui.
Parce que j'étais dans une impasse, je trouvais pas d'établissement, donc il fallait qu'ils m'aident. J'avais qu'une peur, c'est qu'on me dise, bah, votre fille, on va la mettre là, et puis c'est où ça, où elle rentre à la maison. Chose qui est impossible en travaillant. Donc oui, et je continue à les alerter. Puisque j'ai vendu mon livre encore dernièrement à un député, j'ai même envoyé mon livre au ministre de l'Éducation nationale, qui m'a répondu.
Il vous a fait une réponse.
Oui.
Que
la lecture du papillon à roulette lui avait beaucoup appris.
La dernière question, allez, c'est Christiane, et Christiane nous écrit de Toulouse. Elle voudrait savoir, en parlant justement de toutes vos actions, de tous les livres, si ça a changé la vision du handicap, selon vous, si des parents vous l'ont dit.
Je veux pas...
C'est le but, en tout cas.
Oui. Ben, le but, c'est ça. Le but, c'est de changer le regard sur le handicap. J'ai en tête un message d'un papa qui m'avait envoyé donc un commentaire après lecture d'Une nuit des papillons, qui m'avait beaucoup chamboulé. En me disant, je viens de finir votre livre, j'ai aucun problème avec le handicap. Votre livre a été un vrai électrochoc dans ma vie. Je suis la tête dans le guidon pour mon travail depuis des années. Et je viens de m'apercevoir que j'étais passée à côté de mes enfants.
Il y a des messages donc très différents.
Voilà.
Que l'on peut découvrir en même temps que votre témoignage dans le livre Le Nid des Papillons aux éditions Baudelaire. Et puis la version pour les enfants, l'histoire d'une jeune papillon un peu différente des autres. Le papillon à roulette, illustration de Jeanne Chapelle aux éditions Baudelaire également. Et tous les fonds sont reversés à l'association régionale des infirmes moteurs cérébraux, Rhône-Alpes. Merci beaucoup Marie Garnier.
Merci Christophe de m'avoir reçue.